La question de la violence, pourquoi est-ce qu'il y a de la violence alors qu'a priori tous les humains rêvent de pouvoir vivre en paix pour eux, pour leurs proches? Est-ce que cette violence, elle est inéluctable? Est-ce qu'elle est intrinsèquement liée à notre nature duelle d'être humain? Ça fait partie des questions qui, pour moi, ont émergé quand je me suis intéressée à ces sagesses, donc sagesse et philosophie des peuples racines, donc en tant qu'auteur, journaliste, mais d'abord peut-être en tant qu'humaine, chercheuse de sens. Donc je suis allée à la rencontre un peu des peuples, mais aussi surtout des sagesses et philosophies de ce qui anime ces sociétés au départ et depuis la nuit des temps et qui parfois est resté vivant jusqu'à nous. Et donc quand je me suis intéressée à ça, j'ai eu la surprise de découvrir par exemple que dans certaines langues, maya du Mexique notamment, ou chez les Kogi de Colombie, eh bien, il n'y a pas de mot pour dire « ennemi ». Tout simplement parce que pour eux, à l'origine, ce concept, il n'existait pas. Un peu dans la même lignée, j'ai découvert dans les langues natives d'Amérique du Nord, notamment le Lakota, qu'il n'y a pas de mot pour dire « liberté ». Alors pourquoi ? Simplement parce que pour eux, à l'origine aussi, la non-liberté n'existait pas. Donc il faut imaginer, quand les colons sont arrivés sur ce continent, ils ont vu des gens qui avaient l'air de fonctionner ensemble, des hommes et des femmes qui semblaient libres et qui avaient l'air de fonctionner sans avoir besoin d'une autorité. Il y avait des guides, bien sûr, mais il n'y avait pas une autorité avec un pouvoir hiérarchique. Et donc les indigènes, eux, ils étaient choqués de voir ces arrivants-là, qui étaient là et qui, eux, se soumettaient au pouvoir militaire ou religieux. Et donc, ils les ont traités notamment d'esclaves. Ils les traitaient carrément d'esclaves parce qu'ils acceptaient de se soumettre au pouvoir d'un autre. Alors que eux, vivaient une forme de liberté, de souveraineté personnelle qui, à l'époque, pour nos cultures, était juste tout simplement inconcevable. Et finalement, pour nous, aujourd'hui aussi, ça peut paraître un rêve, une utopie, quelque chose d'inaccessible. C'est intéressant de se dire juste que, tiens, il y a des humains à une époque, et peut-être encore aujourd'hui, certaines sociétés, qui peuvent concevoir les choses comme ça, qui peuvent avoir un tel mode de pensée. Et en tout cas, tant qu'ils ne sont pas confrontés à nos cultures qui, eux, ont vu ces peuples comme des peuples à soumettre et comme des ennemis. Alors, ce sont que quelques exemples, loin de moi l'idée de vouloir généraliser, mais donc juste, je vais vous préciser de qui je parle quand je parle de ces peuples-là. Donc, les peuples racines officiellement, c'est 476 millions de personnes réparties en 5000 groupes dans 90 pays un peu partout sur la planète. Ils représentent 6,2% de l'humanité. Et l'ONU considère qu'ils sont les gardiens de 80% de la biodiversité de la planète. Alors évidemment, 5000 groupes, ça fait une immense diversité de cultures, de façons de vivre et forcément de façons de penser. Mais moi, ce qui m'a intéressée, on va le voir, c'est qu'il y a des éléments communs. Et ces éléments communs qu'on retrouve donc universellement chez ces peuples, c'est lié au fait qu'ils se savent quelque part gouvernés par la vie, gouvernés par le vivant. Donc l'idée, elle n'est pas non plus de dire que ce sont, de les idéaliser, qu'il n'existe pas de violence dans ces sociétés-là. Ce sont des sociétés humaines, et comme toutes les sociétés humaines, eh bien, elles ont leur part d'ombre. Donc la violence y existe, la discrimination, le rejet, il y a eu des peuples guerriers, donc tout ça a existé, existe parfois encore, donc, bien sûr, dans certaines sociétés plus que d'autres. Et donc, l'idée, ça n'est pas de dire que ce sont des modèles de perfection et des modèles de paix, mais d'autant plus que parfois, aujourd'hui et encore, ils sont confrontés justement à notre modernité, que leurs sagesses sont mises plutôt à l'épreuve. Mais moi, ce qui m'a touchée donc dans ces sagesses et dans ces philosophies, c'est précisément que elles se voilent pas la face, en fait. Elles tiennent compte de la dualité qui est en nous et elles font en sorte surtout de la reconnaître, de l'accueillir et de l'accompagner. Et donc dans mes recherches, moi, c'est plutôt ce côté inspirant des traditions de ces peuples qui m'a intéressée et de ce qu'elles peuvent réveiller en nous. Alors, je le disais tout à l'heure, ces sociétés, elles ont cet élément commun qui est d'être en lien avec le vivant, et c'est ça, à mon sens, qui leur a permis de vivre ensemble depuis si longtemps et de traverser les épreuves malgré toutes les difficultés que rencontrent ces peuples. Et donc, ce lien, je dirais, pour ces peuples, l'idée, c'est que ils ont conscience de faire partie de la terre, parce que ils vivent encore en lien avec la nature, ou parce que leur culture ont gardé en elle inscrite la trace de ce lien profond. Et ce lien, il est physique, il est viscéral, il est sensoriel, puisque il y a un lien sensoriel au quotidien qui est réveillé chaque jour avec la nature ou qui est présent dans les histoires, dans les textes, etc. Et ce lien, moi, je dirais même qu'il est sensuel et qu'il est affectif. C'est vraiment un lien d'amour. C'est être amoureux de ce qui les entoure. Et ce lien-là, il faut savoir qu'il est à la source de leur connaissance et de leur savoir. Et aujourd'hui, la science s'intéresse vraiment particulièrement à leur connaissance très pointue du terrain. Et c'est aussi à l'origine de leur façon d'être au monde, qui est autre que la nôtre, peut-être. Je dirais que cette conscience de faire partie de la Terre, elle les rassemble autour de la Terre, au lieu de les diviser comme nos cultures qui veulent plutôt se l'approprier et qui divisent les individus. Donc il y a une conscience d'appartenir à un mouvement plus grand qui les dépasse. Et ce mouvement, eh bien, il est fait d'harmonie et parfois de chaos. Et dans ces visions, l'humain a un rôle essentiel à jouer dans son équilibre pour renouveler le monde, en fait, quelque part, à chaque génération. Alors, un mot sur cette idée d'harmonie, c'est une idée que j'ai retrouvée dans toutes les sagesses sur lesquelles je me suis penchée. Il y a des mots dans ces langues, donc chez les Kogi, par exemple, c'est Yuluka. Et Yuluka, ça désigne une forme d'harmonie entre l'intériorité de l'être humain et les conditions extérieures, quelles que soient ces conditions, donc c'est quelque chose qu'il travaille. Les Hopi d'Arizona ont le mot Novoiti. Les Navajo d'Arizona également, enfin, qui sont vers l'Arizona et autour, ont le mot Ojo. Pour eux, c'est carrément une voie de sagesse, en fait. L'idée, c'est que dans ce mot Ojo, il y a la compassion, l'équilibre, l'amour, l'humour, la santé, la prospérité, etc. Et que le travail de l'être humain, c'est d'aller nourrir cette voie-là. Et dès que quelque chose intervient qui est une forme de dualité, eh bien, on la laisse de côté et on continue de nourrir Ojo. Les Maasai, eux, ils ont le mot Enchipai, qui consiste à travailler en soi la joie. C'est une forme de joie tranquille, et ça, c'est le travail de l'humain, de nourrir cette joie. C'est pour eux l'énergie de la vie qui rassemble les humains. Chez les Maoris, on a Kota Inga, qui parle d'unité, d'être ensemble, de solidarité. Et en fait, ce que nous raconte l'existence de ces mots qui sont vraiment au centre de ces sociétés, c'est qu'ils ont une vision commune que la vie, la nature, les écosystèmes ont à l'origine une harmonie intrinsèque. Alors avec parfois des moments de rupture, bien sûr, mais qui doivent ensuite pouvoir se rééquilibrer pour que la vie puisse perdurer. Et donc la vision commune à ces cultures, c'est que être humain, alors être humain, c'est intéressant de mettre l'accent là-dessus, c'est que souvent, c'est les noms que se sont donnés ces peuples à l'origine, si on les traduit, ça veut souvent dire être humain ou bien les vrais humains. Et donc pour eux, être humain, ça signifie travailler à l'équilibre et entretenir cette harmonie. On retrouve ça dans toutes ces sagesses et philosophies, en tout cas celles que j'ai pu explorer. Alors comment on entretient cette harmonie ? Eh bien, en la cultivant en soi-même et dans toutes ses relations. Et pour permettre ça, eh bien, ces cultures, elles prennent soin notamment de 4 espaces dont je voulais vous parler particulièrement aujourd'hui. Le premier espace dont je voulais vous parler, je l'ai nommé l'accueil continuum. Ce terme, je l'emprunte à une chercheuse américaine qui s'appelle Jean Lidloff, qui a vécu dans les années 60-70, notamment avec les Yekwana du Venezuela. Et elle pointait leur différence entre leur façon d'accueillir et d'élever leurs enfants et nos propres façons de le faire. Chez eux, à la naissance, eh bien, le bébé va rester en contact avec le corps de sa mère, il va passer des bras de sa mère aux bras du père, etc., des autres, de toute la famille. Et en fait, il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture, enfin le moins, on va dire, de rupture possible dans son passage vers la vie. Et ça va continuer tout le temps de l'éducation. D'où le terme de continuum. En grandissant, il va apprendre le monde par lui-même, il va aller explorer depuis son propre élan de vie. Vous savez, cette curiosité qu'ont les enfants, en fait, c'est un élan naturel, et tout ça va être ce qui va les mener vers le monde et les mener d'une façon sensorielle et directe. Et donc, quand l'enfant va commencer à marcher, à se mouvoir, il va aller explorer autour de lui. Et c'est finalement, c'est la vie, C'est la nature qui va lui dire quelles sont les limites qu'il va finir par découvrir à travers sa propre expérience. L'adulte va être là plutôt pour sécuriser, mais il va pas imposer son pouvoir. Et l'enfant va, pour apprendre, imiter les plus grands. C'est un des mécanismes d'apprentissage naturel de l'être humain, c'est d'imiter. Donc on va pas l'empêcher d'aider, par exemple. On va pas lui dire, bah non, là t'es trop petit, tu peux pas, etc. On va pas l'empêcher d'aller se balader, d'aller découvrir le monde. Au contraire, il va être encouragé là-dedans et l'adulte va être là pour le sécuriser, mais sans lui imposer son pouvoir. Donc, par exemple, oui, on va avoir quelque chose comme chez les Maasai ou les Pygmées. Souvent, on voit des enfants qui se baladent avec des couteaux, des machettes, enfin, c'est pas rare en tout cas, et ils savent très bien s'en servir, et à aucun moment les adultes ne vont leur inculquer leur peur, en fait. Ils vont l'informer des dangers, mais pas dire « attention, c'est dangereux », etc. Et donc ça va permettre aux enfants petit à petit de se responsabiliser en fonction de leur âge et de leur capacité. Et ça va créer aussi moins de frustration. L'adulte sera moins le frustrateur, mais plutôt l'accompagnant. Et ça, à l'arrivée, ça crée moins de rébellion. Il faut savoir qu'il y a très peu ou pas de crise des 2 ans, la fameuse crise des 2 ans des enfants qui veulent prouver qu'ils existent, en fait, quelque part. Il y a pas non plus de crise d'adolescence, parce que ces passages-là sont accompagnés dans ces sociétés, comme tous les grands passages de la vie, en quelque sorte. Et à l'arrivée, cet accueil continuum, on pourrait dire que il crée des sociétés où est encouragée la participation, là où peut-être on peut dire que nous vivons dans des cultures qui ont tendance à favoriser l'opposition dont on parlait tout à l'heure. Alors un autre espace qui va favoriser cette participation aussi, c'est la connaissance de soi comme préalable. J'évoquais tout à l'heure que ces cultures s'inspirent du vivant, et donc, quand on observe la nature, il suffit de regarder un écosystème pour constater que tout a une place dans un écosystème. Donc c'est une idée, c'est une vision que partagent ces peuples, ces cultures, c'est que chaque élément a sa place. Et donc forcément, tout individu, toute personne qui vient dans la vie a aussi une place. Et si les animaux, les oiseaux, les plantes connaissent leur place et ne se posent pas de questions et jouent leur rôle, eh bien les humains, eux, l'ont oublié. Et ça, c'est les hommes. Enfin, j'ai lu plusieurs textes d'hommes médecine qui mettent l'accent là-dessus, sur le fait que nous avons oublié pourquoi nous sommes venus. Et donc, pour cette raison, parce qu'elles voient les choses de cette façon-là, ces sociétés, elles s'organisent pour accueillir l'être comme il est et l'accompagner à se connaître. Et donc, pendant ce temps-là, le groupe va être là pour répondre ensemble à ses besoins de base, qui vont être le besoin de sécurité, avoir de quoi manger, avoir un toit, nourrir son besoin d'appartenance à une communauté humaine, et ça va aider l'individu à chercher et à trouver un sens de soi. Donc, ces sociétés et leurs membres vont être dans une logique de connaissance de soi permanente, à travers des rituels, des rites de passage, des cérémonies, bien sûr, des temps de partage. Chez les Bushmen, par exemple, on va se retrouver autour du feu le soir, et puis on va raconter toutes ces histoires, tout ce qu'on a vécu, il y aura un chaman qui sera là si besoin. Chez les Kogi, toutes les nuits, on va se retrouver dans les nuées, on va idem échanger sur la vie collective et sur tout ce qui a pu émerger. Et en fait, à travers ces espaces, le collectif va se reconstruire en permanence et chacun va pouvoir y réajuster sa place également. Les Navajos ont cette vision que dès que quelqu'un ne va pas bien, eh bien, alors ils vont organiser une cérémonie de guérison parce qu'ils considèrent que tout mal-être d'un individu appartient à la communauté. Ils considèrent qu'un problème n'est jamais personnel, et donc ils vont organiser une cérémonie pour pouvoir soigner tous ensemble, parce que à travers le soin qu'on va apporter à l'individu, eh bien, c'est le groupe dans son entier qui va être soigné. Ailleurs, on va trouver des pratiques comme des temps de parole avec un chaman, des huttes de sudation, des cérémonies chamaniques, etc. Et donc tous ces espaces de guérison, ils vont permettre à la fois d'exprimer les émotions, de nettoyer les traces qu'ont pu laisser ces émotions, de les transformer donc, et aussi de se réunir. Et ils sont ouverts en permanence, régulièrement, pour permettre de maintenir quelque part une hygiène émotionnelle et relationnelle. Alors ce soin aux intériorités, il est très important parce que dans ces philosophies, elles considèrent que le travail de l'être humain, c'est de harmoniser en soi les contraires. Et il y a le psychiatre Carl Gustav Jung qui s'est notamment inspiré de ses voyages auprès de ses peuples, qui disait que la vie réelle de l'homme est faite d'un ensemble inexorable de contraires, le jour et la nuit, la naissance et la mort, le bonheur, la souffrance, le bien et le mal. Et s'il n'en était pas ainsi, eh bien, la vie s'interromprait. Les sagesses de ces peuples, elles tiennent compte de ces contraires, en fait. Et donc, chez les Maasai, les Kogi, il y a des sages, des hommes médecine qui vont guider les personnes dans ce chemin, les jeunes, mais aussi tout au long de la vie. Et par exemple, dès qu'il y a des épreuves ou des moments difficiles, ils vont être soutenus, les individus vont être soutenus. Les Maasai disent notamment que les épreuves sont des cadeaux, parce qu'elles sont des occasions d'apprendre à se connaître et aussi d'harmoniser justement ces contraires en soi. Donc, on va harmoniser la joie, la tristesse, la colère, la paix, le courage, la lâcheté, etc. Et pour ça, il y a des pratiques que nous, on nommerait probablement initiatiques, mais qui sont en réalité des initiations à la dualité de la vie. Et pour eux, ce sont des pratiques qui sont des pratiques d'hygiène collective, d'hygiène individuelle, et des pratiques d'éducation également. Et donc, connaître ces contraires, ça va permettre de ne plus les percevoir comme des opposés, mais comme des complémentaires qui vont être nécessaires à la vie et que, lorsqu'on va les harmoniser en soi, eh bien, on va pouvoir devenir en soi-même des gardiens des équilibres. Et donc ça permet aussi un soin particulier à la relation. Alors un point que je n'ai pas encore évoqué, c'est que dans les philosophies de ces peuples, elles considèrent que le monde a deux faces, une visible, une invisible, et donc ce qu'on voit n'est que l'émergence de ce qui se joue dans l'invisible. Et donc c'est l'invisible des êtres et l'invisible des relations avant toute chose. Et donc, d'où le fait qu'il va y avoir un soin particulier à cette relation dans ces sociétés. Et donc, en plus des rituels que j'évoquais, ça se traduit par exemple par des coutumes et des pratiques qui sont des éléments culturels qui permettent aux humains de fonctionner ensemble. Par exemple, tout à l'heure, on a chanté en début de journée. Ça, c'est des éléments culturels qu'on retrouve dans toutes ces traditions. Il y a aussi, par exemple, la coutume de bienvenue. Jean Lidloff racontait que chez les Yekwana, quand des voisins arrivaient sur place, eh bien, ils allaient s'asseoir dans un coin, ils allaient rien dire, ils allaient rester silencieux pendant très longtemps, et puis petit à petit, il y avait tout un protocole mis en place, on allait leur amener à manger, ils allaient continuer à rester là en silence, à observer, et puis au bout de plusieurs heures, ils allaient pouvoir commencer à se parler. L'idée, c'est dans ce rituel de bienvenue, cette coutume, c'est toujours de prendre le temps de se sentir et de se mettre ensemble, en fait, d'une certaine façon. Et chez les Kogi, on a aussi tout un tas de rituels quand les visiteurs arrivent sur leur territoire où ils vont demander aux personnes de faire un travail sur elles-mêmes pour pouvoir arriver dans un certain état d'harmonie sur leur territoire pour pouvoir préserver l'équilibre, d'une certaine façon. On a aussi des pratiques comme les offrandes. Il y a beaucoup de peuples en Amérique du Nord, en Océanie, où il y a des potlatches. Donc, c'est des moments où les objets vont circuler entre les personnes. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plein de pratiques, mais toujours, ce sont des pratiques qui vont être porteuses de sens et qui vont organiser et prendre soin des relations. Ce que je trouve intéressant à mettre en parallèle avec nos façons à nous de faire circuler les objets dans nos sociétés. Ça peut questionner quelle est la place de la circulation des objets dans nos sociétés et comment on le fait. Et ce soin à la relation, les Maasai ont une façon qui est intéressante d'expliquer pourquoi c'est important. Ils considèrent que l'autre est le prolongement de soi-même. Autrement dit, ce qui me traverse l'autre et réciproquement. Et donc, il s'agit de ne pas perturber l'autre et de prendre soin de lui, évidemment, comme de soi. Donc, pour cette raison, ils ont des petites pratiques comme toujours encadrer une mauvaise nouvelle de deux bonnes pour ne pas le laisser dans une énergie négative. Et ils considèrent, par exemple, que le pire des péchés, eh bien, c'est la médisance. Parce que si on médit sur quelqu'un, on lui envoie de l'énergie négative. Dans la langue Lakota, on retrouve quelque chose d'un peu similaire parce qu'il n'y a pas de mot pour insulter. Parce qu'on considère que l'autre n'est jamais inférieur à soi-même. Alors, chez les Kogi, en Colombie, tout ce qui va être jalousie, colère, violence, eh bien, ça va pour eux à l'encontre des lois de ce qu'ils appellent Seiwa. Et Seiwa, on peut traduire ça par la conscience. Alors, c'est la conscience qui anime le monde et dont on fait partie. Et donc pour eux, ces émotions, elles doivent être soignées pour comprendre d'où elles viennent, et pour pouvoir préserver les équilibres dont la vie a besoin. Les Navarros, ils font la même chose en réintégrant toute dualité dans Ojo, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans ces visions, cultiver du ressentiment, juger l'autre, bien sûr, le jalouser, eh bien, ce sont les signes d'une disharmonie, d'une blessure qu'on va avoir en soi et qui a besoin d'être éclairée, réharmonisée et soignée. Et les Maasai disent qu'il s'agit de remettre de l'ordre en soi pour que le chaos intérieur ne déborde pas sur l'extérieur. Et si c'est essentiel pour ces sociétés, c'est parce qu'ils ont conscience, quelque part, que ce qui m'appartient fait partie du monde. Ça rejoint un peu ce que j'ai entendu tout à l'heure, c'est que la façon dont je me comporte, la façon dont je vais penser le monde, dont je vais me mettre en relation avec lui, eh bien, ça fait partie de l'écosystème et ça détermine ses équilibres. Parce que donc, ces sociétés, comme j'évoquais tout à l'heure, ont cette conscience d'un plus qu'humain. Et le monde, la Terre, sont toujours au cœur de leurs problématiques collectives, en fait. Ils vont avoir vraiment ce sentiment d'être comme des cellules ou comme des organes de cette Terre, dont ce grand corps vivant dont il s'agit de prendre soin. Et ils n'en sont donc que les gardiens, ils ont la conscience aussi d'en être que les gardiens au service des générations qui suivent. Donc pour ne pas l'oublier, ils vont travailler en permanence cette conscience d'être en lien avec plus grand pour l'incarner dans leur quotidien. Et là aussi, ils ont des pratiques culturelles. Donc j'évoquais tout à l'heure les offrandes à la nature. Pour nous, notre pensée cartésienne, on voit un truc de croyance, on se dit « oh là là, c'est vraiment de la pure croyance ». Pour ces peuples, en fait, demander, faire une offrande, remercier, c'est quelque part nourrir à l'intérieur de soi un lien avec la vie qui nous entoure. C'est garder la possibilité d'un dialogue ouvert à l'intérieur de soi. C'est se rappeler qu'on appartient à ce monde plus grand. Et les Lakota ont cette expression qui est « Omitakuye Oyasin ». Il y a plusieurs traductions possibles. Il y a notamment « Nous sommes tous reliés », ce qui veut dire qu'on vient tous d'une même source, le mystère de la vie qui nous anime. On la traduit aussi par « Je suis parent avec tout ce qui existe », ce qui introduit la notion de parenté, d'interdépendance entre l'humain et le vivant. Et on peut la traduire aussi par « Je suis ce que je suis grâce à toutes mes relations ». Ce qui nous rappelle que notre place dans l'écosystème, elle est déterminée par tout ce qui nous entoure. Et donc, en prendre soin, c'est aussi prendre soin de soi-même. Les Haudenosaunee, c'est le nom que se donnent les Iroquois, ils ont aussi une pratique un peu qui rejoint ça. Et alors, eux, ils étaient vraiment en guerre. C'était des peuples très guerriers. Et il y a environ 1000 ans, ils ont réussi à faire la paix entre leurs 6 nations. Ils ont planté le grand arbre de la paix et ils ont créé une confédération. Et pour célébrer cette paix, pour pouvoir l'entretenir et la transmettre aux nouvelles générations, c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour eux, ça. Ils ouvrent encore aujourd'hui toutes leurs réunions, tout leur rassemblement par un grand discours où sont remerciés tous leurs liens. Et donc, il y avait John Morrow, qui était le porte-parole, historien et porte-parole de la Confédération de Haudenosaunee, qui parlait d'une sorte de diplomatie iroquoise. Je le cite. Ce discours s'ouvre sur le rappel que nous nous voyons les uns les autres, que nous avons besoin les uns des autres, que nous avons besoin qu'il y ait des humains dans le monde et que c'est une bonne chose, que nous sommes reconnaissants pour cela et signifions que c'est bon de les voir, donc nous les saluons. Après les humains vient la terre, sont ensuite remerciés les eaux, les plantes, les animaux, les vents, la lune, les étoiles, le soleil, l'univers, et le grand tout. Et donc la fonction de ce discours, c'est de rassembler les humains, de les amener à ressentir ensemble un état de gratitude et de conscience de faire partie du plus qu'humain, et donc aussi à ressentir quelque part leur responsabilité dans son équilibre. Et John Mohawk précisait, et quelque part je le rejoins, ce discours représente ce sur quoi tous ceux qui sont sains d'esprit dans le monde devraient s'accorder. Alors pour terminer, je voulais dire un mot sur les pistes en fait que nous indiquent ces sagesses, les sagesses de ces peuples dans notre rapport, dans notre rapport au monde, aux autres. Je vais un peu vite parce qu'il me reste pas beaucoup de temps, et à nous-mêmes. Je dirais d'abord, elles invitent à restaurer des cultures du continuum, à diagnostiquer les espaces en nous, entre nous et dans nos liens au monde, où on va cultiver la rupture pour pouvoir y remettre du lien. À encourager la participation, là où on a tendance à cultiver l'opposition, autrement dit, à remettre du « et », de la reliance, là où on a un peu le réflexe dans nos cultures à mettre du « ou » et de la séparation. Et un des espaces que nous séparons beaucoup, c'est le temps. Ouais. Et ce temps, justement, il est coupé de son rythme naturel. Et on est de plus en plus soumis à l'immédiateté. C'est certainement une des premières violences que nous infligeons d'abord aux vivants et donc aussi à nous-mêmes. Ensuite, elle nous invite quelque part à remettre, à nous réunir dans l'intérêt supérieur de la Terre. Et pour ça, à re-questionner nos intentions. Dans mes actions, mon organisation, mon groupe, mes relations à moi-même, aux autres, dans les plusieurs domaines de la vie, comme l'éducation des enfants, la santé, les modes de gouvernance, est-ce que mon intention est au service de l'équilibre de la Terre et de la vie pour les générations qui viendront après? Et partout, ça n'est pas le cas, elle nous invite à se poser la question comment refaire de la quête de l'équilibre et de l'harmonie le cœur de nos vies et de nos sociétés. Et pour finir, je voudrais laisser la parole à Élan Noir, qui était un homme médecine Lakota du début du XXe siècle, et qui disait « Il existe trois formes de paix. La première, la plus importante, est celle qui vient dans les âmes lorsqu'elles réalisent leur relation, leur unité avec l'univers et tous ses potentiels. Et quand les gens réalisent qu'au centre de l'univers se tient Wakantanka, que je traduirais ici par la conscience ou le grand mystère qui nous anime, pour simplifier, pour réunir, et que ce centre est vraiment partout, il est en chacun de nous. C'est la vraie paix dont les autres formes ne sont que le reflet. La deuxième forme de paix est celle qui se tisse entre les individus, et la troisième est celle qui se tisse entre deux nations. Mais par-dessus tout, nous devons comprendre qu'il ne peut pas y avoir de paix entre les nations tant que l'on n'a pas fait la vraie paix dans l'âme des hommes. Voilà. Merci.